C'est l'heure de notre invité et cette semaine, Audrey, on reçoit Francis Bissonnette.
Francis Bissonnette, président fondateur de Sim5, qui est une agence de services conseil spécialisée en contenu numérique. Il se spécialise en construction et technologie et il est l'instigateur de Batimatech.
Alors Francis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous organisiez mardi la 3e édition donc de Batimatech. Rappel de l'objectif de cet événement d'une journée. Je cite, établir un dialogue durable entre acteurs de la construction et des technologies. Éclairez-nous, Francis, qu'est-ce que ça peut bien se raconter un professionnel du bâtiment et d'un geek quand ils ont ce dialogue durable?
Ce qu'on essaie de faire à travers un événement comme Batimatech, c'est de permettre aux entrepreneurs dans le secteur de la construction, aux acteurs du secteur de la construction, les associations, les différents intervenants, les formateurs, de pouvoir communiquer avec les gens de technologie, donc des gens qui développent des solutions innovantes ou qui réfléchissent à des solutions utilisant du numérique pour améliorer l'efficacité et la productivité du secteur de la construction. Puis si le secteur de la construction s'approprie davantage l'évolution de la technologie, comprend ce que les technologies font, ils vont être en mesure de passer des commandes innovantes technologiques. Et donc, ce secteur-là est très en retard dans l'intégration technologique, contrairement aux Santec et d'autres domaines.
Alors, vous parlez beaucoup d'innovation dans le cadre de cet événement. Il y a une grappe pour la construction qui a été créée au mois d'août, enfin, en tout cas qui a été annoncée. Elle devrait être mise en place plutôt en 2019. On veut rendre le secteur de la construction justement plus efficace, plus innovant, peut-être aussi pour aller chercher des coûts plus faibles et une productivité plus élevée dans ce secteur. Je crois que les chiffres ne sont pas les plus forts au Québec. Quel serait le premier projet intéressant selon vous pour structurer cette grappe et justement lancer un peu les festivités, je dirais, en termes d'innovation dans la construction?
Moi, je pense qu'il faut continuer à travailler avec l'ensemble des intervenants. On parle de catalyser ou de fédérer ce milieu-là. C'est des secteurs d'activité qui travaillent à travers des associations, à travers des différents modes de formation. Et ils n'ont peut-être pas su suivre les innovations technologiques. Donc, peut-être qu'il faut revoir la formation, revoir les modes de collaboration entre les différents intervenants, revoir les sources de financement. Parce que la loi du 1%, c'est bien, mais quand on intègre des solutions innovantes comme le BIM, ça peut nécessiter énormément de ressources pour ces entreprises-là. Par contre, ça augmente leur compétitivité et ça augmente leur rentabilité, évidemment, à long terme.
Mais justement, Francis, est-ce que cette grappe qui a été annoncée, je crois que c'est en août, hein, c'est très récent, est-ce que ça a été quand même l'objet des discussions durant cette 3e édition de Batimatech? Parce que vous organisez des conférences, il y a des enjeux de l'heure. Est-ce que ça a été au cœur quand même de certaines des préoccupations? Qu'est-ce qu'on en pense finalement dans le milieu de cette grappe?
Mais en fait, la grappe, c'est présentement, de ce que je comprends, de ce qui se fait, c'est qu'on a fait on a rassemblé l'ensemble des intervenants du secteur de la construction pour voir comment ça fonctionne, premièrement, toute cette industrie-là, puis comment on pourrait éventuellement améliorer leur cohérence, en fait, éliminer un peu les silos. Moi, j'appelle ça des silos.
Donc, que les gens se parlent, hein, c'est ça.
Que les gens se parlent pour... Exact, il y a une dynamique. Présentement, on dit le secteur de la construction, ça représente 22 milliards du PIB. C'est quand même 267 000 emplois directs. Là, on parle même pas du financement des hypothèques et tout ce qui vient avec. Qui est considérable. Et on parle également c'est le quatrième secteur dans le secteur au niveau économique. On parle de au-dessus de 124 000 employés.
Ouais, c'est un secteur qui compte. Et on parle effectivement de ce besoin que justement, les gens du milieu se parlent. Au cours de cette 3e édition, c'était quoi finalement, si c'est pas la grappe, c'est quoi l'enjeu majeur? C'était quoi le principal élément qui a finalement mobilisé les gens cette année? Qu'est-ce qu'en 2018, les gens du secteur ont à se dire finalement quand on parle de construction et d'innovation à Montréal?
Ben, ce qu'ils ont à se dire, c'est que les règles du jeu peuvent changer. Hein? C'est-à-dire que si on parle de la RBQ, la Régie du bâtiment qui légifère certains éléments, le CCQ, par exemple, qui gère tout ce qui touche les relations de travail, si on pense à d'autres interventions, ben ça pourrait changer par des investisseurs étrangers qui viennent ici, puis qui réalisent nos modes de fonctionnement, puis qui vont dire, ben finalement, on n'est pas productif. On n'est pas rentable, donc ils vont investir ailleurs des projets immobiliers, des projets d'envergure, des industries et d'autres.
Vous parliez de l'encadrement, justement, effectivement, l'encadrement dans le secteur de la construction est très structuré, il est très proche des opérations. À vos yeux, est-ce que ce serait contraire, cet encadrement? Est-ce qu'il a un impact finalement néfaste, je dirais, à une dynamique d'innovation telle qu'on la souhaiterait aujourd'hui?
En fait, moi, je crois beaucoup au secteur de la construction. Ça fait longtemps que j'en fais partie. J'ai vu l'évolution des entrepreneurs. Je vous dirais, ils vont évoluer probablement plus rapidement qu'on pense. Pensez à Uber, qui a évolué un peu le domaine du transport. Puis rapidement, les taxis ont joué le jeu. Pensez à Airbnb, où les hôtels ont eu à se réajuster. Mais c'est des nouveaux modèles d'affaires, c'est tout simplement ça. Il faut revoir la construction en changeant les règles du jeu. Un architecte fait un travail admirable, mais peut-être que sa rémunération ou son mode de paiement ou son pourcentage peut être évalué différemment à cause des technologies. Sa contribution, son intelligence d'affaires doit être différente. Même chose pour l'ingénieur qui pouvait parfois avoir des solutions innovantes. Au bout de quelques années, ça devient une application, c'est plus innovant, là, tu sais. Et l'accès à l'information aussi. Le problème aujourd'hui, c'est le data. Le data est très disponible, puis de plus en plus, les entrepreneurs vont comprendre que si on analyse l'ensemble des facteurs, on va être capable de vraiment faire de la prédiction. Donc, en tenant compte de la météo à l'extérieur, en tenant compte...
C'est ce qui était un peu le même cas dans l'agriculture 4.0 qu'on évoquait jusqu'à présent. Exact. Mais le secteur de la construction, vous le rappeliez tout à l'heure, Francis, ces chiffres sont quand même très importants. C'est le quatrième en importance pour l'économie québécoise, en excluant le secteur public. Ça génère environ 6,5-7% du PIB de la province. Et donc, comme vous l'avez dit, des centaines de milliers d'emplois. La technologie, là-dedans, c'est gage de quoi? De plus de compétitivité, d'une main-d'œuvre plus productive? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait ce que ça amène finalement, cette technologie?
En fait, la technologie amène, comme dans d'autres secteurs, la collaboration, amène le partage de l'information. Il faut juste trouver le moyen de partager la bonne information aux bonnes personnes au bon moment, parce que ça va être ça le défi. Puis l'autre défi, c'est d'amener la documentation, l'information, que ce soit visuel, que ce soit en 3D, en 4D, à même le chantier, pas juste dans les bureaux. Donc présentement, la technologie est plus dans les bureaux. Le secteur de la construction doit également intégrer dans ses équipes des gens en TI, pas juste des outsources, mais aussi à l'intérieur de leur entreprise, des gens qui sont professionnellement habilités à les accompagner dans la réflexion technologique, habilités à leur proposer des solutions. Puis également, le secteur doit s'ouvrir à tenter et d'essayer des nouvelles choses. Mais il faut comprendre que c'est un secteur qui est très compétitif, il fonctionne souvent avec des appels d'offres, donc les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Par contre, ceux qui ont déjà réussi à intégrer les technologies, c'est drôle, mais ils sont comme en avant de la parade. Donc, ils sont capables après ça de faire intégrer les technologies à l'ensemble de l'œuvre, de leurs partenaires. On parle plombier, électricien,
Et on sait que les sous-traitants sont extrêmement nombreux dans le domaine de la construction. Ça va peut-être d'ailleurs simplifier le rapport avec eux, la technologie. On parle de collaboration, c'est peut-être...
Ça simplifie, mais en même temps, ça permet aux généraux, ceux qui ont les moyens de mieux... évaluer la nature des travaux, la durée, la performance et tout ça, ce qui est nouveau. Avant, chacun gardait ses spécificités, puis ça fonctionnait en équipe, mais là, c'est du data qui est déjà disponible. On négocie le temps de travail, l'exécution, puis l'ordinateur nous le rappelle, là, le numérique nous le rappelle.
On parlait plutôt de l'agriculture 4.0, la construction 4.0, vous l'évoquiez aussi, ça nous intéresse beaucoup. Tout à l'heure, on parlait du lien aussi entre la data et puis aussi les enjeux de protection de l'environnement. La construction intelligente, le rôle des données dans la construction, juste pour un peu plus éclairer les auditeurs, ça ressemble à quoi concrètement? Ou ça ressemblera à quoi si c'est pas encore bien installé?
Ben en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense qu'on peut... C'est un peu farfelu d'imaginer à quoi ça va ressembler, là, parce qu'on s'en va vers, par exemple, le 5G. Donc ça va changer un peu les règles du jeu, ne serait-ce que juste le mode de toutes les applications qui vont pouvoir se déployer, se développer sur le terrain. On pense aussi à comment ça va se développer si on a davantage de gens qui font des formations académiques qui les amènent à connaître davantage l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble des solutions, comprennent... d'une part. D'autre part, si on redéfinit aussi les règles du jeu, par exemple, si je vous dis le drone, on peut en parler, tout le monde va comprendre que le drone peut servir à faire à la fois du scanning, peut faire de la photo, peut faire du 3D, peut faire de la géolocalisation, un paquet d'éléments, mais au Canada, à Montréal en particulier, on n'a pas de réglementation qui permette d'opérer un drone de façon efficace. Présentement, ces solutions-là sont innovantes dans d'autres pays et eux vont nous vendre la solution pré-mâchée parce qu'on n'aura pas pris le devant dans l'utilisation et dans les permis.
Donc, ce que vous dites, Francis, c'est que la réglementation, elle n'est pas encore en mesure de pouvoir permettre toutes ces évolutions-là.
Et beaucoup d'autres réglementations, que ce soit les réglementations au niveau des relations de travail, parce que dans le fond, si je vous mets des senseurs sur vous pour voir si effectivement l'appareil que vous avez, vous l'utilisez, et est-ce que ça ne vous abîme pas le dos après un certain temps, tous les éléments qu'on peut coller sur les gens, votre cellulaire, donne de l'information géolocalisation, donne du data, etc. Est-ce qu'on rentre dans la vie privée, vie publique, etc. Puis le coût de main-d'œuvre, c'est quand même considérable dans la construction par rapport à d'autres secteurs. Là.
Alors, on parle d'innovation dans les process, hein, notamment, on sait que la modélisation 3D, c'est pas que de la modélisation 3D, il y a aussi de la planification aussi de projets là-dedans. Mais les matériaux innovants, parlons-en un petit peu, ils ont aussi leur rôle. Là-dessus, comment travaille le milieu de la construction avec le milieu universitaire, le milieu de la recherche, je pense en particulier à l'ETS, à Polytechnique. Est-ce qu'il y a déjà des liens qui sont fortement établis ici au Québec?
Je pense qu'on commence, mais ça, c'est la francophonie au Québec, c'est principalement ça. Là. C'est nouveau. On a des grands joueurs, sans les nommer, mais aussi, on a des... Il y a trois chaires présentement. Il y a la chaire Ivano-Cambridge, il y a la chaire de l'UQAM, il y a la chaire Polytechnique avec Pomerleau, puis il y a une autre chaire avec l'ETS, qui est également avec Pomerleau. Mm-hmm. Puis sur cette base-là, eux, ce que ça leur permet, c'est de pouvoir être en contact avec des étudiants, des chercheurs, en maîtrise, en doctorat, et de pouvoir échanger sur leurs problématiques et qu'eux sont capables, après ça, de mécaniser ça sous forme numérique ou sous forme technologique pour répondre à leurs besoins. Et encore une fois, c'est toujours retour sur investissement. Dans quelle mesure ce qu'on va développer comme solution va être scalable et fluide pour l'industrie?
Flexible.
Il y a une phase... dans un projet de construction qui est très en amont, c'est l'architecture, vous en avez un petit peu parlé plus tôt, qui est par nature très créative. Alors aujourd'hui, on parle d'innovation. Il y a pas très longtemps, une déclaration pour une politique québécoise de l'architecture qui a été lancée. L'idée, ça serait que le Québec se dote justement d'une politique pour l'architecture. Et puis vous parliez aussi du lien entre un encadrement réglementaire qui serait en retard et l'impact sur la compétitivité d'un secteur. Bref, qu'est-ce que pourrait apporter cette politique de l'architecture pour la création de valeur et l'innovation dans le secteur de la construction?
On peut penser, je ne sais pas si je vais bien répondre, mais on peut penser par exemple que un bâtiment, ça prend 3 ans à réfléchir, à dessiner, à construire, mais il y a tous les aspects de la maintenance, tous les aspects de l'entretien qui sont mis de côté dans la planification au départ, parfois. Puis, sachant qu'un bâtiment dure, par exemple, 90 ans, ben, il faudrait peut-être avoir une meilleure... revoir, par exemple, à travers ça, le coût réel d'un bâtiment. Est-ce qu'on le paye à l'entrée, l'architecte, ou on le paye sur le nombre d'années d'usage du bâtiment? Et l'ensemble des autres joueurs également. Peut-être qu'il faudrait revoir ça aussi.
Merci Francis Bissonnette. Je rappelle, vous êtes président de Batimatech et président de l'agence digitale Sim5.